Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, je viens du laboratoire de l'UMR LISA, lieu identité activité et espace, qui est un laboratoire de l'université de Corse, et je fais partie d'un axe de recherche qui se nomme identité, culture et processus de patrimonialisation. Donc ATER est par ailleurs doctorante. Donc c'est quelque part en toute logique que je m'intéresse à cette notion de patrimoine et donc à ce projet de recherche donc que nous avons raccroché un petit peu en retard par rapport à ses débuts. Donc j'ai participé à l'élaboration de l'échantillon des établissements, à la passation au sein des établissements, comme j'ai pu le dire hier, à la saisie des données collectées et puis donc à leur analyse. Donc, c'est là, excusez-moi, j'ai deux ordinateurs, j'ai pas l'habitude. Voilà, merci. Donc, le regard que je vous propose ici, à travers donc ce qui est une première analyse sur l'ensemble, se porte sur l'ensemble du corpus des données collectées dans les 76 établissements français. Donc, je ne vais pas parler ici, bien sûr, des 610 récits étrangers, des 17 établissements catalans, allemands et suisses. Je vais simplement me cantonner aux 5823 récits que nous avons collectés et donc je vais les interroger à travers le prisme de la notion du patrimoine. Donc si ce concept de patrimoine représente aujourd'hui, pour être très schématique, une vaste nébuleuse d'objets, d'œuvres, de pratiques, de savoir-faire ou encore de lieux qui s'arrachent au temps, c'est un ensemble qui est issu donc d'un passé plus ou moins lointain. C'est un terme qu'on retrouve aujourd'hui, qui est donc très fréquemment, qui est aujourd'hui quasiment galvaudé. Or, il appartient de revenir à quelques travaux qui ont été conduits par certains chercheurs. J'en citerai quelques-uns ici, notamment donc les travaux d'Annie Héritier, qui a porté un regard sur le 19e siècle, et puis particulièrement sur ce 19e siècle qui est caractérisé par une volonté politique de patrimonialiser pour forger donc une assise symbolique donc à l'État. Donc je vous laisse lire la citation, j'ai peur que le temps me manque. Donc c'est une citation extraite de ses travaux de thèse « Genèse de la notion de patrimoine culturel » donc en 2003. Donc la notion aujourd'hui de contemporaine du patrimoine, c'est donc a commencé à se structurer à cette époque-là, où naît finalement la conscience d'un commun, c'est les prémices d'une conscience collective. Donc on comprend à travers cette définition donc que le patrimoine finalement rassemble donc des objets qui composent cette notion. Il se définit donc par ces objets, il se définit aussi par son utilité, mais aussi il se définit par les conditions d'émergence de ce concept. Donc ce sont les trois points de cette diapositive. Donc sans revenir sur cette évolution qui a structuré ce concept dans cette introduction, on trouve parmi les travaux que j'ai pu consulter pour préparer cette analyse, notamment donc Heinrich Natali, qui donc dans son ouvrage de la cathédrale à la petite cuillère évoque justement cette inflation patrimoniale qui commence dans les années 70 et qui aboutit aujourd'hui à une situation, je le disais tout à l'heure, d'un terme quasiment galvaudé dans la société. Tout est patrimoine aujourd'hui, effectivement, même une petite cuillère. On a donc les travaux d'Annie Héritier dont je parlais tout à l'heure. On peut également citer donc les travaux de Violaine Houdard-Méraud, en 2012, qui elle considère que la notion de patrimoine revient un petit peu en force dans la société, car il est délesté d'une connotation nationaliste. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, dans le sens où derrière la notion de patrimoine, il y a surtout la notion d'identité. Et donc, derrière la notion d'identité, il y a aussi cette notion-là. Et enfin, autre ancrage pour lire ce corpus, les travaux de François Hartog. Je vous laisse donc lire cette citation, mais aussi le travail que Marie-France Bishop a réalisé sur plus particulièrement les éléments les patrimoines littéraires en fait à l'école, et donc qui propose en fait cette définition du patrimoine, qui est à la fois donc ce qu'on reçoit, ce qu'on l'on veut transmettre, voire léguer. Ce faisant, la notion rencontre l'école. Donc, c'est en fait finalement en quoi finalement c'est les récits d'élèves finalement ici nous donnent à voir une définition de la notion de patrimoine. En quoi finalement cette notion de patrimoine dans les récits des élèves participe aussi à l'évolution de ce concept, à l'évolution, puisque le patrimoine c'est quelque chose de figé, mais c'est aussi quelque chose qui progresse et n'est qu'une finalement est aussi redéfinie à chacune des générations. Donc finalement, c'est intéressant de porter un regard sur les récits des élèves pour voir, à travers ces récits, pour voir finalement ce qu'ils définissent comme patrimonial et comment ils le définissent. Donc la patrimonialisation d'autres éléments de la construction de ce concept participe donc à sa construction par le bas du patrimoine, et ça inverse un petit peu le schéma du 19e siècle qui lui était plutôt de l'État et là on a donc un renversement on regarde ce corpus. Donc regarder ce corpus sous l'angle du patrimoine, c'est aussi donc justement s'interroger sur la présence ou pas d'une dynamique de cette notion. Donc de ce concept vivant, évolutif. Et donc j'ai trouvé que ce matériau était particulièrement intéressant pour comprendre ce qui faisait patrimoine dans la tête des élèves et donc essayer d'appréhender ce que les élèves rattachent à cet ensemble, tout en identifiant les différents processus, notamment langagiers, que les élèves mobilisent dans leurs récits, qui font finalement de simples occurrences, on va dire de simples occurrences culturelles, de véritables éléments patrimonialisés dans leur esprit. Donc la présente présentation que je voudrais vous faire aujourd'hui, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que ce sont des résultats intermédiaires qui vont relever à la fois d'une analyse statistique, mais aussi d'une analyse à l'échelle du contenu, puis donc à l'échelle micro. Donc je vais m'intéresser à plusieurs récits en particulier. Donc voici le plan qui va, notre feuille de route des quelques minutes qui vont nous occuper encore. Donc l'analyse donc des données s'est déroulée en plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'ai effectué une lecture. J'ai lu 3 fois ensemble du corpus. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, ça m'a permis de réfléchir sur la nécessité de construire des outils pour appréhender le corpus dans sa globalité. J'ai utilisé donc dans un premier temps Excel et ensuite Trop, qui est un petit peu comme le logiciel NVivo utilisé par l'équipe de Genève, qui est un logiciel d'analyse sémantique qui permet donc de faire des représentations schématiques des occurrences, des co-occurrences dans les récits. Et enfin, un logiciel de cartographie, 2 en fait, pour être précise, QGIS et ArcGIS, pour justement Donc commencer à cartographier non seulement les établissements, etc., mais aussi dans la perspective de cartographier les éléments du patrimoine, donc en fait les savoirs patrimonialisés, les occurrences qui prennent du sens dans les récits des élèves et voir justement où elles sont présentes sur le territoire. Donc pour réaliser en fait, pour travailler avec ces outils, la méthodologie nécessite d'adapter les données. Je vais juste vous donner un exemple. Et également avant tout, justifier l'usage par exemple de TROP. Quand j'ai lu le corpus dans sa globalité, j'ai tout de suite relevé, par exemple, le lien entre François Mitterrand et la Bibliothèque nationale de France. Et donc pour étayer l'idée de la relation entre art et pouvoir. On y reviendra dans la troisième partie. Et au final, lorsque je suis passée dans la moulinette de ce logiciel, enfin pas moi le texte, mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'était qu'une seule occurrence. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule occurrence que ce n'est pas important, que ça devient anecdotique, mais en tout cas, ça permet de se mettre à distance et de pas trop mettre d'affect dans les choses que l'on lit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce dont j'avais besoin. Donc, ce logiciel a répondu en partie à mes attentes. Donc, autre chose, par exemple, pour réaliser une cartographie. Non, vous savez que je me trompe en fait avec les deux écrans, mais bon, c'est pas grave. Pour réaliser notamment cette cartographie, dans la deuxième fiche qui était distribuée aux enseignants, où on demandait de caractériser le niveau de la classe, certains enseignants remplissaient. Il y avait aussi une autre variable que l'on leur demandait de compléter, c'était la caractéristique dominante de l'établissement. Et en fait, je me suis aperçue sur plusieurs établissements, alors notamment un en Corse, mais aussi un sur l'Académie de Lyon, ces deux me reviennent en tête. Pour l'Académie de Corse, on avait en fait, selon les classes, donc un établissement qui se trouve en plaine orientale, eh bien les enseignants ont mis tantôt établissement en zone rurale, tantôt établissement en banlieue aisée, et en zone défavorisée. J'ai oublié l'intitulé exact de la variable. Et donc, finalement, pour un seul et même établissement, j'avais trois variables. Donc, c'est ce qu'on appelle, en fait, les dires d'acteurs. Donc, c'est des données chaudes où, en fait, l'acteur projette sa propre représentation qu'il a sur sa classe, en fait. C'est en lien avec son vécu, son expérience professionnelle, son expérience personnelle, etc. Donc, du coup, j'ai dû, encore une fois, mettre à distance pour pouvoir me servir de cette information qui était importante pour pouvoir après m'en servir comme une véritable variable, parce que si sur un même établissement j'avais plusieurs choses différentes, je pouvais pas ensuite le passer à l'analyse statistique. Donc c'est ce qui m'a donné c'est ce qui a motivé en fait mon intérêt pour ce que l'INSEE a fait en 2010, Angelina l'a évoqué, c'est-à-dire en fait une nouvelle répartition des aires d'habitation. Donc ici vous avez sur cette carte la répartition de l'échantillon total de l'enquête, avec donc tous les collèges qui sont donc en bleu. Vous avez ensuite donc tous les lycées d'enseignement général, les lycées d'enseignement polyvalent, etc., etc. Donc, en fait, tout ça, il a fallu en fait dire au logiciel de cartographie, non seulement va me chercher, cartographie-moi le X et le Y, qui correspond à un point sur une carte, et ensuite, cette catégorie, tu me la représentes comme ça, etc. Donc, il faut arriver à comprendre le logiciel. Voilà un petit peu pour cette partie, pas forcément des plus enthousiasmantes, mais c'est pour vous faire entrer un peu dans la cuisine d'une carte et dans la tête, dans ma tête en tout cas. Pour justement arriver à cette deuxième partie, toute cette partie donc de méthodologie m'a permis de construire cette approche descriptive et exploratoire que je vais vous présenter ici. puisque en fait ici je vais me focaliser donc sur les éléments du patrimoine dans les récits des élèves, donc toujours sur l'ensemble du corpus, pour justement arriver à définir encore un nuage de mots, pour arriver encore à définir finalement ce qu'est justement cette notion de patrimoine. Je parlais de nébuleuse tout à l'heure, donc à partir notamment des occurrences de mots. Alors, deux sphères patrimoniales, en tout cas, quand j'ai fait ma première lecture, j'ai tout de suite renseigné, selon chaque fiche, s'il y avait une occurrence patrimoniale ou pas, de façon à voir si c'était intéressant à analyser. Donc, d'un point de vue quantitatif, sur l'ensemble du corpus, on a deux sphères patrimoniales qui sont représentées. On remarque 3400 occurrences qui sont en lien direct avec la notion de patrimoine culturel et seulement 629 occurrences qui concernent le patrimoine naturel. Tout cela sur un ensemble quand même relatif de 141 fiches, soit 14% en fait des occurrences. Donc la place du patrimoine naturel est infime dans l'ensemble du corpus. J'en parle parce que il y a une spécificité, c'est que en fait un résultat de tri à plat à l'issue de la première lecture. Donc on voit que la majorité des récits sont sans occurrence patrimoniale, qu'on a une partie bien évidemment sans récit, qu'on a par exemple donc la majorité en troisième niveau ici relève d'occurrences culturelles, l'occurrence naturelle étant donc beaucoup plus infime. Donc finalement en fait le patrimoine naturel est représenté, c'est pour ça que j'en parle, même si c'est une partie infime dans le corpus, uniquement, quasiment, par la Réunion. Donc, on parlait de paysages, de cartes postales, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on a une patrimonialisation globale de l'île. On a un raccourci des élèves qui parlent du patrimoine, du classement de l'île en 2010, et tout de suite, c'est l'île égale patrimoine, en fait. Un lien direct avec le patrimoine naturel. Les autres académies sont vraiment pas présentes, hein, puisque c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un cas dans l'académie d'Orléans et de Tours, et un cas dans une autre académie dont... Donc finalement, les deux académies qui sont porteuses d'occurrences patrimoniales, en tout cas du naturel, eh bien, sont donc des îles uniquement. Donc, ensuite, j'ai réalisé donc une enquête, enfin toujours dans mon approche exploratoire, j'ai essayé d'analyser une variable en particulier pour cette présentation. Je me suis focalisée sur une seule variable qui est la variable de niveau, qu'ensuite après j'ai croisée avec une autre variable, mais on en parlera tout à l'heure. Donc la variable de niveau par rapport à l'ensemble de l'échantillon, donc échantillon total 5823, ça c'est la répartition donc des élèves selon leur niveau. Je me trompe encore. Donc ici, plutôt sur un autre diagramme, on va avec plutôt le nombre par niveau. Et donc, on s'aperçoit donc effectivement de la plus grande représentation du niveau très hétérogène. Finalement, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, là, du coup, j'ai croisé plusieurs variables. C'est-à-dire que je me suis en fait intéressée au nombre de caractères par récit. Donc merci à Valérie Fontagneux d'avoir beaucoup travaillé. Franchement, c'est absolument par hasard, en m'amusant, parce que ça m'amuse de faire des tableaux, en m'amusant avec la base de données, que je me suis rendu compte que croiser le nombre de caractères de récit Donc chaque, il y avait une colonne de nombre de caractères par récit, avec donc les occurrences, les récits qui avaient des occurrences patrimoniales et les récits qui n'avaient pas d'occurrences patrimoniales. Avec l'autre variable qui est celle que je viens de vous présenter, qui est celle des niveaux, ben on atteint quand même, enfin je pense qu'il y a un écart significatif, c'est-à-dire qu'en rouge, on voit que les élèves qui ont des occurrences patrimoniales sont beaucoup plus prolixes dans leur récit. Donc, 5 minutes, oui. Donc, preuve en est cet autre graphique. Vous voyez encore plus cette différence selon si c'est celui-ci ou celui-ci vous parle le mieux. Voilà, donc finalement, donc ici, toutes les captures que vous verrez comme celle-ci proviennent donc du logiciel Trop dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais faire vite. Donc concernant le patrimoine culturel et plus particulièrement le patrimoine architectural à travers les châteaux, donc on voit une omniprésence donc du château de Versailles. Donc grâce au logiciel TROP, ça vous permet d'éviter le mot traité de Versailles, de mettre toutes les fautes d'orthographe et les fautes de frappe et de le rattacher pour essayer d'être au plus juste sur le corpus. Donc je vais passer. Donc au niveau des références littéraires également, donc je crois que Laurence, tu l'avais présenté, donc je vais éviter d'être redondante pour passer directement à la troisième partie qui vise à m'interroger en fait finalement sur qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces récits. Et en dernière sous-partie, je ferai un point sur la Réunion et on reviendra sur ce cas particulier. Donc le mode de collecte des données au moyen de récits, donc qui n'est pas évalué, c'est vrai que ça a quand même assez libéré les élèves pour avoir fait la passation. Ils étaient absolument, oui, ils n'avaient pas la pression pour utiliser un terme qui leur serait familier. Et la narration donc a favorisé l'expression libre justement par la consigne raconte, mais en tout cas ce que cela a permis, c'est que ça a permis en tout cas de laisser de la place à la subjectivité, contrairement à ce qu'est normalement un récit historique. Là, les élèves y mettent leur personne, et en fait, dans cette partie, j'ai essayé de comprendre, d'aller au-delà en fait de l'occurrence, de la partie descriptive, mais d'essayer de comprendre à travers la façon dont ils le disent, qu'est-ce qui pour eux fait sens, qu'est-ce qui pour eux est patrimonial, et justement quels sont ces processus qu'ils mobilisent pour patrimonialiser. Donc leur processus de construction s'articule autour de trois points, notamment celui de la qualité, c'est-à-dire qu'il qualifie notamment par un adjectif en utilisant merveilleux, donc ils apportent un jugement laudatif sur ce dont ils témoignent. Et donc, ils utilisent aussi, et c'est apparemment fréquent chez les enfants, m'a dit une collègue qui en a, c'est donc l'emphase, enfin, ils utilisent beaucoup, oui, et donc, ils utilisent beaucoup l'hyperbole, le plus important, et surtout, ce que j'ai noté, donc, dans ce récit 4066, c'est surtout l'aspect entre guillemets vedette du monument. C'est parce que les touristes viennent dans le pays qu'en fait ça lui donne cette importance et que du coup il ressort comme patrimonialisé dans les récits des élèves. Je fais très vite. Ensuite, donc j'ai d'autres exemples en fait, notamment de liens. Donc ça, c'est avec le logiciel Trop que c'est ressorti. Le lien entre art, symbole en fait, donc le patrimoine artistique comme symbole, mais comme symbole de quoi? comme finalement symbole du pouvoir, donc vecteur justement symbolique, enfin du pouvoir, mais aussi vecteur d'une critique du pouvoir. Donc je vous laisse prendre connaissance des récits, puisqu'il y a 5 minutes, il me restait 5 minutes. Et enfin, ils utilisent aussi, notamment, donc ça c'est pour voir un petit peu les univers qui sont convoqués autour d'un autre univers. Donc ça donne ce type de représentation. Donc ils utilisent également en termes de procédés la quantité, donc le fait qu'il y ait beaucoup de monuments, le fait qu'il y ait la France a beaucoup de châteaux, eh bien ça donne en fait toute une dimension, toute une profondeur quasiment 3D à l'élément qui devient alors patrimonial. Il y a également pour traduire cette quantité un procédé la syndette. Qui est donc une énumération sans déterminant. On a une succession dans les récits, un peu comme les personnages historiques que Laurence a évoqués hier. C'est intéressant de regarder ces récits parce que on arrive à appréhender donc comment et pourquoi est-ce qu'il les juge intéressants et pourquoi, en fait, ces occurrences sont mises en patrimoine. Alors, une rapide phrase concernant l'île de la Réunion, avec cet exemple, puisque je le disais tout à l'heure, on a un raccourci entre la patrimonialisation de l'île, qui est vue donc comme une carte postale, une gravure, mais j'irai un petit peu plus loin concernant une occurrence du patrimoine culturel immatériel, qui est le Maloya, qui apparaît donc, qui est un chant traditionnel, et je ferai un parallèle avec un autre chant qui est les polyphonies corses, qui ont été patrimonialisées au même moment par l'UNESCO. L'un est omniprésent pour la Réunion et l'autre n'a qu'une seule occurrence dans les récits. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête des élèves? Qu'est-ce qui s'est passé en dehors de l'école? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour justement que cela prenne une telle dimension à la Réunion et une telle dimension dans l'absence? Je n'ai pas terminé de m'interroger là-dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant.
Il faut terminer.
Donc voilà, c'est ma diapositive de conclusion. Donc comme je vous le disais, c'est donc une première ébauche de mon regard sur ce corpus. J'envisage donc de poursuivre, notamment en explorant l'influence d'une autre variable, qui est celle donc des sorties culturelles sur justement les récits. Pour preuve, l'illustration d'un élève qui dit je retiens plus facilement les détails aperçus dans les films, les livres, les lieux culturels après des heures de révision. Et enfin, l'autre piste que j'espère pouvoir explorer, c'est la mise en cartographie des occurrences patrimoniales. Voilà. Je vous remercie de votre attention.